L'Évangile pour le couple.
L'Évangile pour le couple.
Présenté par Alex et Maud Loriot-Prévost.
Bonjour à tous.
Bonjour à tous.
Nous voici dans une nouvelle émission pour l'Évangile pour le couple avec la poursuite, Maud, d'un thème que nous avons commencé la semaine dernière.
Voilà, c'est dans l'Ancienne Alliance tout ce travail de révélation de ce qu'est l'amour vrai selon la volonté de Dieu au sein d'un monde païen et complètement aux valeurs antinomiques à ce que Dieu est en train de nous apprendre. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec un texte du prophète Osée qui est justement sur ce thème de l'amour.
Voilà, et ça va être vraiment le parallèle profond, un texte les plus symboliques de l'Ancien Testament pour bien montrer que malgré notre péché, le Seigneur nous aime comme un époux aime une épouse et qu'il pardonne, malgré tout son péché. Voilà. Donc le début du chapitre 1 du texte d'Osée, lorsque Yahvé commença de parler par l'intermédiaire d'Osée, il lui dit « Va, prends une femme qui se prostitue et qu'elle te donne des enfants nés de la prostitution, car le pays ne fait que se prostituer en se détournant de Yahvé. » Voilà. Et ce poème qui commence « Accusez votre mère, accusez-la, car elle n'est plus ma femme et je ne suis plus son mari. » Qu'elle écarte de devant elle ses prostitutions et d'entre ses seins ses adultères. Voilà. Sinon, je la dévêtirai et la laisserai nue, sans rien, comme au jour de sa naissance. J'en ferai une terre aride et elle mourra de soif. Et voilà. Et donc, le mouvement naturel, effectivement, du mari, de l'amant répudié, trahi, comme de Dieu trahi, c'est effectivement de rejeter l'imposteur, le traître. Et puis, au fil de l'expérience, une fois que la personne rejetée, je dirais, a vécu son péché, l'amour finalement est plus fort que ce rejet. Et à ce moment-là, il se retourne vers sa fiancée. Et malgré son péché, voilà ce qu'il lui exprime plus tard dans ce poème. C'est pourquoi maintenant je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Je lui rendrai ses vignes, je changerai la vallée d'accord en porte d'espérance. Alors elle me répondra comme au jour de sa jeunesse, comme au temps où elle montait du pays d'Égypte. Ce jour-là, parole de Yahvé, tu diras « mon mari » et tu ne m'appelleras plus « mon Baal ». Voilà. Et encore cette déclaration d'amour, malgré tout son péché, tu seras ma fiancée pour toujours. Ce seront des fiançailles de justice, de droiture, dans la tendresse et la miséricorde. Je te fiancerai à moi dans la fidélité et tu sauras qui est Yahvé. Voilà.
Voilà, le Seigneur se sert, entre guillemets, de l'expérience d'Osée pour le faire traverser l'adultère de sa femme et qui part dans la prostitution, comme on dit dans la Bible, c'est-à-dire que ça veut dire qu'elle le trompe et qu'elle part ailleurs, et que Dieu, lui demande de retourner vers son épouse, de la séduire à nouveau et de recommencer une alliance. Et de cette façon-là, Dieu cherche à manifester à quel point son amour est fidèle, est indéfectible. Et la miséricorde de Dieu est tellement grande que justement si nous nous retournons vers lui, quelle que soit notre histoire, quel que soit notre passé, il est toujours là à attendre la relation. Il est toujours là à attendre que nous restions dans une relation d'amour avec lui. Il suscite, il attend. Il est comme celui qui frappe à la porte et qui attend que vraiment nous soyons là, disponibles. Donc voilà un peu ce que ce texte d'Osée, il faudrait commenter tous les chapitres, évidemment, ça serait beaucoup trop long. Mais Dieu est en train de nous réapprendre ce qu'est l'amour et que une fois qu'il est trahi, que la personne est répudiée, châtiée, elle peut dans son chemin de conversion dans son désert, retourner vers l'amour premier et retrouver un amour encore plus fort. Voilà. Ça, c'est une des données de l'amour de Dieu.
Et ce que insistera, ce sur quoi Osée insistera vraiment très fort, c'est cette expérience de cette prostituée qu'il va réépouser et fiancer. Il dit ainsi, je sèmerai pour moi dans le pays, j'aurai pitié et je dirai, tu es mon peuple, et lui dira, tu es mon Dieu. Donc cette expérience, c'est pour l'enseigner sur la relation d'intimité avec d'intimité de Dieu avec son peuple, malgré tout son péché. Et donc c'est pour cela que l'amour de Dieu, au travers de Osée et de l'expérience d'Osée, apparaît vraiment comme l'amour trahi, répudié, châtié, mais pardonné, qui conduit à la conversion. C'est l'amour jaloux, non reconnu et bafoué, qui demeure fidèle envers et contre tout. C'est l'amour de Dieu qui persévère et qui veut toujours séduire, raviver la fraîcheur amoureuse de la première jeunesse. C'est un amour qui triomphe sur le péché, parce que il a travaillé à purifier l'épousé, à la pardonner, à renouer constamment ce lien amoureux, ce lien conjugal, voilà, en restaurant cette unité originelle. Et voilà. Et c'est tout l'amour de Dieu pour son peuple, et c'est aussi tout l'amour de Dieu pour le mariage. Malgré toutes nos infidélités, le Seigneur croit en nous et croit que nous pouvons retrouver la fraîcheur de notre mariage, de notre relation.
Voilà, il y aurait beaucoup de textes de l'Ancienne Alliance à citer où on voit comme Dieu essaye de faire traverser des moments de violence, d'inceste, de meurtre, toutes sortes de barbaries, si je puis dire, où il apprend à l'homme ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et qu'à travers ce que la Bible a retenu comme histoire, elle est en train justement de tirer des leçons. Le chemin de l'amour conjugal, c'est un chemin de perfection, d'unité, d'amour, qui va nous permettre de rentrer dans une découverte de la plénitude, si je puis dire, de l'amour. C'est-à-dire que c'est pas simplement un attachement momentané, mais c'est vraiment un attachement du cœur pour toujours. Et là, il y a une nouveauté parfaite. Ce n'est, comme on disait il y a pas très longtemps, Alex, ce n'est pas tout à fait étonnant que les gens aient envie de se mettre hommes et femmes ensemble pour avoir des relations sexuelles. Ça, ça fait partie de notre nature humaine. Par contre, s'attacher à son conjoint pour toujours, avec une seule personne, dans la fidélité, de façon, je dirais, indissoluble, ça, c'est vraiment un appel qui est de Dieu et qui est au-delà de notre nature humaine.
Et c'est vraiment le fruit de la révélation, et comme tu l'as dit, c'est le fruit de la révélation qui s'inscrit dans l'histoire, et dans l'histoire notamment du peuple hébreu. Et c'est pour cela qu'il est bon, même si on va le faire rapidement, en mode de souligner les différentes grandes figures conjugales de l'Ancien Testament.
Voilà, alors il y a beaucoup de choses à dire sur ces figures conjugales, mais c'est vrai que par rapport à ce texte d'Osée que nous venons de lire, le premier couple qui nous vient à l'idée, c'est le couple de David et Bethsabée. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette histoire où David a été séduit par une femme qu'il voyait se baigner, et cette femme était Bethsabée, mais malheureusement elle était mariée. Et donc David l'a fait appeler, et puis il a couché avec elle, et ensuite il était bien embêté parce que il s'est rendu compte qu'il avait un époux et qu'il savait pas très très bien comment faire pour masquer cet adultère. Et par un stratagème un peu compliqué, il l'envoie au front et finalement
il se fait tuer.
Et il se fait tuer, voilà. Et donc David,
c'est la convoitise pour Bethsabée qui l'a conduit non seulement à l'adultère, mais en plus, qui a conduit au meurtre de son mari.
Voilà, d'abord il a voulu le faire revenir pour qu'il couche avec sa femme, il l'a fait boire, enfin bon, il a essayé. Tout un, il est rentré dans une espèce de stratagème compliqué, plein de mensonges, plein de. Et puis finalement, ce meurtre a éclaté en plein jour et le prophète est venu à la face de David, lui faire reconnaître sa faute. Et là où c'est très beau, c'est que, cette histoire est absolument dramatique, tragique, Mais David s'est
profondément reconnu son péché.
Voilà, il s'est repenti, il a pleuré amèrement sur son péché, il s'est rendu compte de l'abomination de son geste et à quel point sa passion pour Bethsabée lui avait fait perdre la tête au point de faire mourir un homme. Et d'ailleurs, l'enfant né de cette union va mourir. Et comme signe justement que ce n'était pas selon la volonté de Dieu et qu'il avait quelque part détourné la beauté de l'amour pour assouvir ses passions. Et ça, c'était vraiment contraire à la volonté de Dieu, contraire à son bonheur, contraire au bonheur même de l'entourage, puisque ça mène au meurtre, ce qui est quand même assez grave. Donc voilà comment, à travers cette histoire-là, Dieu appelle David et appelle le peuple à comprendre à quel point, quand on ne suit pas les règles, je dirais, de l'amour, eh bien, on s'expose à un danger de mort.
Voilà, et puis on peut passer sur un autre modèle, qui est le modèle de Sarah et Toby. Mais peut-être qu'on va attendre 2 minutes, et on va après accueillir cette très belle histoire de Sarah et Toby. À tout de suite. So I look to you.
Voilà, nous revoilà dans cette émission où nous sommes en train de parler de la révélation de l'amour qui est faite au travers de l'Ancienne Alliance. Et nous voulions parler de ce couple de Sarah et Toby. Alors c'est une très belle histoire qui se trouve dans un petit livre à l'intérieur de la Bible, qui est le livre de Toby, où le père de Toby l'envoie pour chercher une épouse au pays de ses pères. Et il va être accompagné dans ce cheminement par un compagnon, qui se révélera plus tard être l'ange Raphaël, mais nous en reparlerons. Et voici que Toby arrive dans la maison de son oncle, où il y a Sarah, la belle Sarah, tellement belle.
Qu'est-ce qui lui est arrivé à la pauvre Sarah?
Que la pauvre Sarah, ses 7 maris qui l'ont épousée jusqu'à présent sont tous décédés la nuit de noces. Alors c'est pris comme une sorte de maléfice, mais en fait, si on arrive à comprendre à travers les lignes, cette femme était vraiment une enfant de Dieu qui voulait vraiment vivre dans la beauté de ce que Dieu propose. Et ses maris étaient pris sans doute de passion, tellement elle était belle. Et n'étant pas jugé digne d'épouser Sarah, il mourait aussitôt. Et donc le père était obligé de creuser la tombe du mari toutes les nuits de noces. Et finalement, il l'enterrait au matin. Donc la pauvre Sarah était absolument terrorisée d'épouser un autre homme en se disant « ça va recommencer puisque ça m'est déjà arrivé 7 fois ». Qui dit 7 dit que vraiment c'est arrivé une multitude de fois. Donc Toby arrive et lui reconnaît dans Sarah vraiment l'appel de Dieu pour tous les deux et qu'ils veulent placer l'un et l'autre leur amour sous le regard de Dieu en premier lieu. Et donc la nuit de noces, une fois qu'ils se retrouvent tous les deux dans la chambre, Toby a cette initiative étonnante qui nous est racontée. Il ne s'approche pas de sa femme, il la prend par la main et lui dit « Levons-nous, prions maintenant. »
Voilà, tu es béni, Dieu de nos pères, et ton nom est béni pour les siècles des siècles. Que les cieux et toutes tes créatures te bénissent de siècle en siècle. Tu as créé Adam, tu as créé Ève, sa femme, pour être son secours et son soutien, et c'est d'eux que toute la race des hommes est née. Tu as dit « Il ne faut pas que l'homme soit seul, faisons-lui une aide semblable à lui. Maintenant, ce n'est pas par le plaisir que je cherche en épousant cette sœur, je le fais d'un cœur sincère. Aie pitié d'elle et de moi, et conduis-nous ensemble jusqu'à la vieillesse. » Ils terminèrent en disant ensemble « Amen, Amen », puis ils se couchèrent pour la nuit.
Et voilà qu'au matin, Toby n'est pas mort, et que le père de Sarah n'en revient pas, et que c'est une fête absolument éblouissante, tellement il est soulagé d'avoir trouvé une solution pour sa fille, si je puis dire.
Alors qu'est-ce qu'on peut tirer justement, Maud, de cette parole, et du sens de cette parole?
Voilà, ben, je ne sais pas si vous avez remarqué dans la lecture de ce texte, c'est que Toby resitue l'amour vraiment dans le plan divin. Je veux m'unir à ma femme comme tu nous as dit de nous unir à l'origine, que tu voulais que notre union soit pure et qu'elle soit signe de notre communion. Et donc il arrive à une parfaite maîtrise de ses passions pour vivre une communion dans cet amour avec cette femme. Et à ce moment-là, elle rentrant comme lui dans ce désir, ils veulent mettre tout leur amour dans la prière dès la première rencontre. Ils veulent sanctifier leur relation et à ce moment-là, c'est la vie qui jaillit.
Alors sinon, nous avons un autre couple symbolique qui est une figure de l'articulation entre l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est Zacharie et Élisabeth, le dernier couple cité par les Écritures, avant la révélation, avant l'avènement du Christ, qui ont enfanté par la foi Jean-Baptiste, qui est le plus grand des enfants des hommes.
Voilà, alors Zacharie et Élisabeth étaient stériles, comme beaucoup de couples de l'Ancienne Alliance. Il y a beaucoup de stérilité dans les histoires, parce que la stérilité est souvent le signe que Dieu va intervenir pour prendre lui-même, si je puis dire, l'initiative d'une fécondité, et que ça ne dépend pas des volontés humaines. Et Zacharie et Élisabeth font cette expérience de la stérilité jusqu'à ce que, dans le temple, Zacharie reçoive son annonciation, si je puis dire, qui est celle de la naissance de son enfant. Puis c'est Élisabeth qui va recevoir la visitation, c'est-à-dire la visite de Marie, et l'enfant va tressaillir en elle. Donc l'un et l'autre vont vivre finalement une expérience incroyable. Ils vont recevoir l'accomplissement de la promesse. Donc Zacharie et Élisabeth, ça va être Jean-Baptiste qui va annoncer le Messie. Et ce Jean-Baptiste-là, effectivement, c'est le plus grand des prophètes, et c'est quand même pas le plus petit des enfants des hommes.
Voilà, au travers de ces quelques figures, nous nous rendons compte combien le Seigneur, Dieu, le Tout-Puissant, éduque son peuple, enseigne son peuple, le fait grandir dans la foi, dans la révélation, dans l'expérience de l'amour conjugal. Et on verra plus tard dans une émission, dans deux ou trois émissions, combien aussi la figure de Jean-Baptiste, qui bien sûr est toujours présenté comme celui qui présente le Seigneur, qui est celui qui annonce la venue du Christ, aura un rôle très particulier par rapport aussi au mariage. Donc vous voyez comme tout cet Ancien Testament est un fil conducteur permanent dans l'accueil de la révélation. De la révélation concernant le couple et la famille. Et Maud, on peut avancer également sur Siméon le Juste et Anne la Prophétesse. Alors, c'est pas vraiment un couple.
Voilà, c'est ça.
On sait qu'on le présente là un peu de manière particulière. Vous savez, Siméon et Anne qui ont accueilli au temple Marie, Joseph et le tout petit Jésus lors de la présentation au temple. Et voilà. C'est cette couple de prophètes, et qui n'étaient pas mariés, mais c'était l'homme et la femme, comme les figures un peu de l'Ancien Testament, qui reconnaît en Jésus le Messie annoncé par toute l'histoire de la révélation.
Voilà, et c'est pas un hasard qu'ils sont tous les deux très âgés, qu'ils sont tous les deux consacrés au service du temple et à la prière, et c'est donc l'expérience de leur vie spirituelle, cette vie, l'épaisseur d'une vie qui est derrière eux, qui leur donne cette capacité de reconnaître en Jésus, l'enfant de la promesse. Et la liturgie de l'Église a repris la prière de Siméon qui est chantée tous les jours par tous les contemplatifs du monde entier. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut que tu as préparé à la face de tous les peuples, lumière pour éclairer les nations et gloire de ton peuple Israël.
Vraiment que dans cette confession, dans cette exaltation de Siméon, vraiment nous retrouvons vraiment cette action de grâce pour l'action du Seigneur dans nos vies personnelles, dans les peuples, mais également dans les couples, car c'est un chemin constant pour retrouver vraiment cette bénédiction originelle.
Voilà, donc, on voit à travers tout ça, justement, toute cette imprégnation qu'il y a eu, finalement, de toute l'histoire du peuple, jusqu'à découvrir quelles sont les grandes données de l'amour, et jusqu'à être capable d'être prophète. Donc Siméon et Anne, en fait, reconnaissent le Christ comme étant l'aboutissement de tout ce cheminement. Et pendant tout ce cheminement, nous avons, nous, peuple, si je puis dire, de Dieu, appris à découvrir quelle était la profondeur de ce mystère de l'amour. Et c'est vrai que c'est absolument étonnant. Alors, de voir la méthode qu'a employée le Seigneur pour ça.
On peut peut-être reprendre au mot un peu les éléments un peu fondamentaux que nous souligne justement ce cheminement de tout le peuple hébreu que nous avons vu durant ces deux émissions.
Voilà, alors un premier point, nous avons souligné comme Dieu nous a appris que le mariage était fait pour être le lieu d'un attachement mutuel des deux époux qui sont tous deux de même nature et d'égale dignité. Ça, c'est une des bases de la relation conjugale.
La deuxième chose, c'est que l'union sexuelle traduit d'abord une union plus profonde de deux êtres où tous les fibres de ces deux êtres sont engagées. C'est le sens d'une seule chair qui est la visualisation de quelque chose qui est plus intime, qui est l'union de deux cœurs. Mais les deux, cette union des deux âmes et des deux cœurs, sont comme célébrées par une seule chair.
Ensuite, il y a l'annonce que le couple idéal, c'est un couple monogame, un seul homme, une seule femme, qui vivent dans la fidélité et la durée tout le temps ensemble, et qui vont vivre entre eux, je veux dire, une sexualité ouverte sur la vie.
Voilà. Et cette vie est fruit de la sexualité, qui n'est plus dissociée dans ses différents aspects. Et donc, nous sommes invités à sanctifier la sexualité, et non pas à la sacraliser, ce qui était l'apanage des religions païennes. Et puis d'associer profondément sexualité et fécondité, voilà, en combattant toute perversité, en demeurant vraiment sous le signe de la bénédiction de Dieu, et où cette intimité de Dieu, cette intimité du couple qu'il vécut en Dieu, qu'il vit en Dieu et avec Dieu, va comme fructifier au travers de la fécondité.
Voilà, donc on va avoir ainsi la figure du couple chrétien qui va se détacher à travers cet apprentissage de l'amour et qui va être donc ce que nous appelons aujourd'hui le modèle du mariage chrétien, c'est-à-dire un homme et une femme qui se choisissent librement, par élection, c'est-à-dire par choix, et qui vont faire en sorte d'être une seule chair, comme dit la parole. On va avoir une seule femme qui va être notre épouse, qui est la mère de nos enfants, l'amante et notre sœur spirituelle, et réciproquement pour l'homme.
Voilà, donc vous voyez comme cette révélation, les fruits de toute l'histoire, à la fois, je dirais, des 2000 ans avant Jésus-Christ, des 2000 ans après Jésus-Christ, voilà toute cette unification, d'unifier les fonctions de femme, d'épouse, de mère et d'amante et de sœur, hein, de même pour l'homme, vraiment c'est un fruit, c'est un don immense de Dieu. et qu'aujourd'hui, effectivement, nous voyons bien que dans notre société, nous sommes en train de faire éclater toutes ces différentes dimensions, comme quoi nous sommes quasiment à des moments dans un temps qui, par certains aspects, est un temps de l'anti-révélation, comme tout le travail qui a été réalisé depuis 4000 ans allait être fracturé. Voilà. C'est pourquoi, vraiment, vous comprenez combien le Christ qui travaille nos vies, qui travaille en nos vies et en nos couples, en nos vies conjugales, doit vraiment nous permettre d'accueillir le fruit de cette révélation. En tout cas, nous demandons vraiment au Seigneur que fructifie en chacune de nos vies, en chacune de vos vies conjugales, cette bénédiction et cette sanctification de l'amour amoureux. Voilà, que le Seigneur nous conduise, qu'il nous bénisse. Et à la semaine prochaine. The intimate friendship of the Holy Spirit.